RCF. Nos frères aînés, Noémie Marijon.
Tes yeux ont le charme des colombes. Ta chevelure évoque un troupeau de chèvres qui dévale du mont Galaad. Tes dents me font penser à un troupeau de moutons. Ces comparaisons amoureuses et bien d'autres se trouvent pas dans un poème antique, mais bien dans la Bible. Avec Claire Placial, maître de conférences en littérature comparée à l'Université de Lorraine, spécialiste d'histoire et de théorie de la traduction, nous allons nous intéresser à ce texte singulier et à ses usages chez les chrétiens et chez les juifs. Et ce texte, c'est le Cantique des Cantiques. Alors, Madame Placial, pourquoi il y a un texte amoureux et érotique dans cet ensemble de textes qu'est la Bible ?
C'est une bonne question que se sont beaucoup posées les croyants de toutes les confessions et également les non-croyants qui sont très surpris de le découvrir depuis toujours. C'est en effet un texte, le Cantique des Cantiques, qui a une nature très amoureuse, voire érotique, et qui n'évoque pas une figure divine. Du tout.
Il n'y a pas mention de.
Il n'y a pas de mention explicite du nom de Dieu. Il n'y a pas non plus une sorte de légitimation de l'amour, de la sexualité, ce qui aurait pu finalement être une explication dans une sorte d'institution du mariage ou de la sexualité humaine validée, on va dire, en plus haut lieu. Mais donc c'est un petit peu une sorte de mystère. Finalement, ça interroge la présence de ce texte dans les corpus sacrés. Alors il y a plusieurs façons de l'expliquer. Une façon assez récente, en réalité, d'expliquer la présence de ce texte dans le corpus biblique, c'est de dire que l'amour et la sexualité font partie de l'expérience humaine, font partie du plan de Dieu pour l'homme, et qu'à ce titre, on les valorise, et ça fait partie de la beauté des échanges possibles entre les individus. Mais traditionnellement, et quand on remonte dans le temps, on va voir que finalement, une façon de comprendre la présence du Cantique des Cantiques dans le corpus sacré, c'est de faire de cet échange, de ce dialogue amoureux, une métaphore d'autres choses, de choses plus spirituelles. Et là, on peut penser à toute la tradition de lecture des textes sacrés dans tous les monothéismes qui voit d'un côté un sens littéral du texte. Le texte dit « tes dents sont comme un troupeau de moutons, je te désire, ma sœur, ma fiancée, etc. » Et puis d'autres sens qui seraient des sens spirituels. Il s'agirait donc de voir derrière ce sens littéral la figure en filigrane, par exemple de Dieu. Traditionnellement, on va par exemple projeter dans ce texte, derrière la personne du bien-aimé, derrière la personne masculine, la figure divine ou la figure du Christ, et derrière la figure féminine, plein de sortes de figures très diverses et selon les confessions, la figure de l'âme, la figure du peuple d'Israël, la figure de l'Église.
Et alors, quand est-ce qu'il a été écrit, ce texte en particulier, dans quel contexte ?
C'est toujours compliqué, les textes bibliques, de les dater précisément. Il est attribué au roi Salomon, qui est censé avoir vécu au 9e siècle avant la naissance du Christ. En réalité, il est sans doute très postérieur, parce que comme c'est un texte qui est pétri d'aramaïsme, enfin qui tire un petit peu vers l'araméen dans sa langue, on considère qu'il est plutôt écrit vers le 4e siècle avant.
Et alors, pourquoi ce titre ? Moi, je m'étonne beaucoup, ce titre, le Cantique des Cantiques.
Ouais, ce titre, le Cantique des Cantiques, en fait, c'est un génitif hébraïque, ce qu'on appelle un génitif hébraïque, c'est une tournure de phrase qui vient mettre de l'emphase, en fait, sur un mot, comme on dit le Saint des Saints, par exemple, qui est l'endroit le plus saint du temple. Le Cantique des Cantiques, c'est le plus beau des cantiques, ou le Cantique suprême.
Le plus beau des chants, ouais.
Mais, en fait, c'est une terminologie qui est issue de la tradition latine, de dire cantique. Le mot hébreu, en effet, c'est Shir HaShirim, qu'on pourrait traduire par chant des chants, le plus beau chant.
Et donc ce texte, on le retrouve à la fois dans le corpus sacré chrétien et dans le corpus sacré juif.
Oui, puisqu'il est rédigé en hébreu et qui fait partie à la fois de la Bible hébraïque, en effet, et de l'Ancien Testament.
RCF, nos frères aînés.
Alors, quelle est la lecture que les juifs en font spécifiquement de ce chant ?
Oui, ils en font plusieurs lectures, c'est comme tout. Il y a aussi bien dans le christianisme que dans le judaïsme des traditions plurielles de lecture. Dans les lectures spécifiques du judaïsme, il y en a plusieurs qui sont assez intéressantes, qui sont des lectures allégoriques, qui vont par exemple, comme c'est un texte qui puise énormément ses comparaisons dans le paysage, le corps de la femme est comparé aux collines de la Galilée, en quelque sorte, du mont Liban, etc. Une lecture traditionnelle consiste à dire que cette femme est désirable comme la terre d'Israël est désirable. Mais voilà, un lien entre le corps de la femme et la terre, et finalement, il s'agirait d'aimer une femme comme on aime Israël en tant que pays, en fait, comme terre promise, quoi. Mais inversement, ça veut dire aussi que la femme est la terre promise. Enfin, la terre promise est la femme, enfin, Il y a une sorte de réversibilité de la métaphore.
Et alors, du coup, il y a d'autres lectures allégoriques ?
Il y a d'autres lectures allégoriques si on pense aux usages liturgiques du Cantique des Cantiques en milieu juif, hein, parce que selon les traditions, parce qu'il y a encore des différences entre communautés ashkénazes, séfarades notamment, selon les traditions, c'est un texte qui est lu intégralement, alors déjà chez tout le monde à l'office de Pessah, selon les communautés également lors du Shabbat. Il y a un des hymnes qui est très fréquent, l'Eradodi, qui fait partie en fait de la cérémonie du Shabbat, qui s'appuie très fortement, qui est une espèce de paraphrase du Cantique des Cantiques, en fait, parce que il s'agit d'accueillir le Shabbat comme une fiancée.
On vient de voir avec vous, Claire Placial, les lectures du Cantique des Cantiques faites par le peuple juif. Quelles sont celles qui sont spécifiques aux chrétiens ?
Elles sont à la fois différentes et similaires. Elles sont similaires dans le sens où elles fonctionnent de façon complètement parallèle. C'est-à-dire qu'on va prendre ce texte d'amour et en donner une lecture allégorique. Et quelque chose de très très canonique, c'est l'idée de voir derrière la figure de l'homme Dieu ou le Christ, et derrière la figure de la femme, l'Église. Donc le cantique serait l'union de l'Église au Christ. Dans un contexte de la vie religieuse également, c'est la femme qui se consacre en devenant l'épouse du Christ dans la vie religieuse, qui finalement vit ce mariage mystique, en fait, hein, à l'aune du cantique.
Du coup, vous nous avez dit que le texte du Cantique des Cantiques était lu à Pessah. Est-ce que dans la liturgie chrétienne, on le retrouve régulièrement, ou est-ce qu'il est moins fréquenté ?
Il est moins fréquenté, me semble-t-il, dans la liturgie en tant que telle. Ça n'est pas tant dans la liturgie que le texte est abondamment utilisé en milieu chrétien, c'est essentiellement dans toute une sorte de production culturelle qui est en fait très familière de la plupart des chrétiens qui ont une culture classique. Aussi bien, par exemple, dans certaines liturgies, je pense par exemple aux vêpres de la Vierge, il y a toute une reprise du texte latin du cantique, par exemple, Nigrasum sed formosa, ce genre de choses-là.
Alors, hein, qui, vous faites la traduction.
Oui, c'est un des versets très célèbres du Cantique des Cantiques, hein, qui sous la plume de Jérôme dans la Vulgate latine, se dit « Nigrasum sed formosa »,« Je suis noire mais belle », qui a donné lieu à beaucoup de réélaborations de toutes sortes, et notamment aussi à des peintures de la Vierge noire, ce genre de choses-là, parce que les lectures mariales font partie en fait un petit peu des lectures possibles du Cantique du Cantique, où on verrait une figure de la Vierge dans la figure de la jeune fille du Cantique. Ça donne lieu alors à la fois à ces hymnes qui vont puiser dans le Cantique pour célébrer la Vierge, ça donne lieu aussi à l'iconographie.
Et notamment, je crois qu'il y a des échos du Cantique des Cantiques dans les descriptions qu'on fait de la Vierge, notamment quand on la désigne comme le jardin clos. Tout ça, ça vient directement du Cantique des Cantiques.
Alors, ça vient peut-être indirectement du Cantique des Cantiques. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire le Cantique des Cantiques parle de la Vierge. Il n'en parle pas explicitement, hein, mais c'est le principe de se servir du Nouveau Testament pour relire l'Ancien. On fait une superposition de lecture. Par exemple, dans l'iconographie des Annonciations, on va voir souvent derrière la Vierge un jardin clos. Représentés, par exemple dans les Annonciations de Fra Angelico, qui sont très célèbres, hein, qu'on peut trouver sur Wikipédia sans problème, on va voir un jardin fermé avec toutes sortes de plantes symboliques, la grenade, l'oranger, qui sont des symboles souvent associés à la Vierge. Et finalement, il y a une espèce de rencontre des motifs floraux évoqués dans le Cantique des Cantiques et des symboles attachés pour des valeurs morales, souvent la pureté de l'oranger ou la pureté d'Ulysse, la fertilité dans la grenade, etc., qui sont en congruence, en quelque sorte.
Il y a des échos de ce texte de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, vous venez de nous le montrer. Est-ce qu'il y a des échos du Cantique des Cantiques dans la culture au sens peut-être plus large ? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui se sont inspirés de ce texte biblique ?
En fait, les échos dans le Nouveau Testament, il n'y en a pas tellement dans le Nouveau Testament que dans les lectures qui sont faites du Nouveau Testament.
D'accord, hein, c'est une deuxième phase.
Et en fait, justement, c'est plus dans la culture tirée du Nouveau Testament, tirée de l'exégèse chrétienne, que l'on va relire à nouveau frais et redéployer la métaphorique du Cantique des Cantiques. Et alors, est-ce qu'il y a des échos dans la culture au-delà de l'art sacré chrétien Ben, évidemment, oui, par exemple, dans toute la poésie amoureuse. Mais en réalité, la poésie amoureuse de l'Occident européen depuis le Moyen-Âge, elle est souvent de culture chrétienne. Pétrie par des gens qui ont lu ces textes. Donc c'est très difficile de voir où est la poule et où est l'œuf. Hein.
Et finalement, ce que vous nous dites un peu, c'est que ce Cantique des Cantiques, il a irrigué tout un tas de productions spirituelles et religieuses qui ont effacé quelque part ce contenu un peu sulfureux et érotique.
Oui et non. Pendant plusieurs siècles, il était compliqué en milieu chrétien, dans l'exégèse, de valoriser le sens littéral du texte, hein, qui est vraiment clairement érotique, hein, parce que ce que vous avez lu en début de d'émission était encore un passage relativement soft, hein, par rapport à d'autres qui désigne des parties du corps que l'on ne voit que dans l'intimité. Et néanmoins, les auteurs profanes, par exemple, se sont très largement emparés du texte, un petit peu dans des zones troubles où on n'est pas complètement dans de la poésie érotique, on n'est plus dans de la poésie spirituelle. Je pense à des poèmes comme Yeats, par exemple, William Butler Yeats, qui s'est abondamment inspiré du Cantique dans sa production. Et puis même en milieu plus directement chrétien, les poètes mystiques espagnols, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, se sont fortement inspirés du Cantique, et dans des termes qui sont parfois extrêmement sensuels, hein, pour parler de l'expérience de l'union à Dieu, sans qu'il s'agisse de faire état d'une sexualité humaine vécue de façon prosaïque, en fait. Mais il y a ce chevauchement, hein, de la sensualité et de la spiritualité qui n'est pas nécessairement contradictoire.
Merci beaucoup, Claire Placial, pour cette promenade dans ce texte singulier, dans ses traductions, dans ses lectures et dans les œuvres qu'elle a suscitées. On peut retrouver vos travaux sur votre blog universitaire qui s'appelle Langue de Feu, un titre proverbial. Bonne journée à toutes et tous à l'écoute de RCF.